Remerciements. Comme toujours, j'ai une dette envers un certain nombre de personnes qui ont permis à ce livre d'exister. Au commissariat de Boston, le commissaire divisionnaire Daniel Coleman, la directrice de la communication Nicole Saint-Peter, le capitaine Juan Torres, le capitaine Wayne Rock, le lieutenant Michael Galvin, et enfin mon cher voisin et collègue du Kiwanis Club, Robert Chuck Kyle, retraité de la police de Boston, qui m'a aidé à mettre toute la machine en route et qui possède un stock d'anecdotes tel qu'aucun auteur ne pourra jamais espérer lui rendre justice dans un seul et même roman. Ces gens m'ont patiemment fait don de leur temps et de leur savoir. Il va de soi que je me suis servi d'eux tous pour ensuite prendre de substantielles libertés romanesques. Mon humble gratitude à Marv Milbury, ancien AS à l'hôpital psychiatrique de Boston. Marv est un homme d'une exceptionnelle gentillesse, mais dont les récits feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe qui. Pendant notre déjeuner, même la serveuse s'est interrompue dans son travail pour l'écouter. Là encore, plus d'anecdotes qu'un livre ne pourrait en contenir, mais j'ai fait de mon mieux. Pour ceux qui s'intéresseraient réellement à l'histoire des établissements psychiatriques, j'ai dû bricoler la chronologie, mais je me suis efforcée de respecter la réalité de ces institutions. Merci également à Anne-Marie Mears, anthropologue judiciaire, qui a généreusement pris sur son temps personnel pour m'aider à comprendre le protocole à suivre dans l'exhumation d'une tombe vieille de 30 ans. À signaler que les informations sur la momification naturelle sortent tout droit d'Internet, sont sans doute totalement erronées et ne doivent pas être retenues contre Anne-Marie. Les romanciers sont là pour ça. À Betsy Elliott, amie très chère et également auteur de Son état, qui est une nouvelle fois venue à ma rescousse. Peu de gens prennent encore vos appels quand vous leur avez demandé d'organiser une fusillade à Boston. Betsy ne m'a pas seulement apporté une aide inestimable pour mon premier livre avec Bobby, Alone, mais quand je l'ai appelée cette fois-ci en lui expliquant que j'avais besoin de visiter un asile psychiatrique à l'abandon, elle m'y a conduite avec enthousiasme. Au crépuscule, en pleine heure de pointe. Je t'adore, Bets. À la vraie Didi Warren, voisine, amie et chic fille, qui a accepté sans hésitation que j'utilise son nom pour ce que nous pensions toutes les deux être un personnage relativement mineur de Alone. Faites confiance à Didi pour voler la vedette et finir dans deux livres. La vraie Didi est aussi canon que son homologue romanesque, et heureusement pour nous tous, tout aussi attachée au service des autres. Elle a également la chance d'être mariée à un homme séduisant, drôle, brillant, John Bruni, qui fut lieutenant dans Alone, mais dut rester en dehors de ce livre-ci. Tu es un chic type, John, et un merveilleux poète. À mon frère Rob, qui a volontiers proposé ses collègues pour pourvoir l'hôpital psychiatrique de mon roman en patients et en personnel. Vous voyez, je ne suis pas la seule tordue perverse de la famille. À mes bonnes amies et couturières hors du commun, Cathy Caruso et Marie Kermin, qui m'ont appris le béaba de la confection de rideaux. Je n'en ai finalement pas utilisé autant que je l'aurais voulu. C'est de ma faute, pas de la vôtre. Promis, je ferai mieux la prochaine fois. Et à John Barker, qui a eu la chance de remporter le 3e concours annuel Kill a Friend, Maim a Buddy, sur www.lisagardner.com. John a proposé le nom de son ami Inge Lovell pour être le cadavre exquis de ce roman. Voilà où mène l'amitié. J'espère que vous êtes toutes les deux contentes. Quant aux autres, eh bien, la quête d'immortalité littéraire recommence en septembre. Enfin, à la rubrique Attention et aliments prodigués à l'auteur, à Anthony, pour toutes les raisons qu'il connaît mieux que personne. À Grace, qui travaille déjà sur son premier roman, avec une prédilection pour l'encre rose vif. À Donna Kennison et Suzanne Presby, qui m'ont permis de me réfugier au somptueux Mount Washington Hotel pour que j'arrive à tenir les délais tout en préservant ma santé mentale. Et à mes chères voisines, Pam et Glenda, pour les lundis soirs entre copines, les cookies au fromage blanc et les restes de saumon. Ce sont ces petites choses qui font qu'on se sent bien dans un quartier. Vous venez d'écouter « Sauver sa peau » de Lisa Gardner, traduit par Cécile Deniard, lu par Maud Rudigoz.